de Samuel 1, de Samuel 6, pardon. Et puis, malgré le temps limité, je vais lire les 25 versets. Je crois ceci, quand je priais, je dis, Seigneur, alors on me dit tout le temps, Jean-Luc, quand tu prêches, fais attention, pas lire trop de versets. Et puis, en même temps, je crois que plus que jamais, on a besoin de la parole de Dieu, parce que c'est hors de la parole de Dieu, de ce rocher le plus dur, que peut sortir ce fleuve de bénédiction et entre autres de cette présence. Et je suis très reconnaissant puisque c'est parti aujourd'hui dans ce sens. Le thème de mon message, c'est sa présence qui bénit. David, 2 Samuel 6, 1 à 25. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Eshuda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char 9 l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char 9. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline et Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed de Gath et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas en sacrifiant un bœuf, un veau gras, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin et David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Seigneur, je te remercie pour ta parole et je te prie que ce matin, tu puisses être cet enseignant. Saint-Esprit, tu es l'enseignant. Tu es celui qui nous enseigne et qui nous amène les choses les plus profondes de Dieu. Eh bien, je te demande qu'à travers ta parole, tu puisses révéler ceci dans le nom de Jésus. Amen. L'arche de l'Alliance ou l'arche du témoignage ou même l'arche de l'Éternel, c'est tout la même chose qui est expliquée dans la parole. Et c'était une arche de 1,75 m sur 1,25 m où il y avait dedans les 10 lois, donc les 2 tables des 10 lois. Il y avait le bâton d'Aaron, ainsi qu'il y avait le vase d'or qui était fait pour récolter la manne. Et il y avait un couvercle, et ce couvercle était d'or, et il y avait 2 chérubins qui étaient là. Et c'était l'endroit, au milieu de ceci, où Dieu se révélait et parlait notamment à Moïse en face à face. C'était l'endroit où la présence de Dieu résidait, et une fois par année, il y avait un sacrifice qui était fait par le grand sacrificateur pour la purification de Moïse, du sacrificateur, mais également de l'ensemble du peuple. Et cet endroit, il est mis dans l'histoire, mais aussi dans les récits de la Bible, il y avait une telle présence qu'il y avait une lumière qui émanait de cet endroit. Et ils entendaient la voix audiblement où Dieu donnait des directives, il prescrivait certaines choses, des directions qui étaient données au peuple ainsi qu'à Moïse. C'était un endroit glorieux, fantastique. Et malgré cet endroit fantastique, c'est étonnant dans la Bible, notamment dans la période des juges, on voit que, eh bien, gentiment, il disparaît du peuple. On voit qu'il n'apparaît plus vraiment et on voit qu'il y a des défis, il y a des combats, des luttes. On voit que ce peuple d'Israël a beaucoup de difficultés. On voit juste dans un endroit du temps d'Élie où, au fait, les Philistins ont été volés cette arche de l'Alliance ou l'arche du témoignage et l'ont mis dans la maison de, j'ai un blanc là, du dieu Dagon, exact, merci beaucoup, du dieu Dagon. Et chaque nuit, ce dieu, il tombait, alors que c'était une statue, il tombait en face de l'Arche de l'Alliance. Et ça a duré pendant je ne sais pas combien de temps, où finalement les Philistins en ont eu ras-le-bol et l'ont ramené au peuple d'Israël. Et on voit un autre passage où de nouveau les Philistins sont venus pour voler cette Arche de l'Alliance, cette Arche du témoignage qui représente la présence de Dieu. L'Arche de l'Alliance, c'est vraiment l'endroit où la présence de Dieu était là. Et ils ont essayé de voler ceci. Et j'aimerais déjà commencer par ceci. La présence de Dieu, on ne peut pas la voler. C'est quelque chose de saint qui est réservé à Dieu et qui est Dieu lui-même et qui se manifeste dans certaines conditions dont ce matin je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Mais entre autres, les Philistins l'ont à nouveau volé et il est marqué que quand ils avaient ceci au milieu d'eux, les Philistins, le peuple a été touché de maladie. Ils ont été malades, ils sont morts jusqu'à ce qu'ils aillent le redonner à ceux qui avaient hérité de ceci. Et là, on voit Saül, il devient roi. Et je vois juste un passage où on parle un petit peu de cette arche, mais sinon tout le temps du règne de Saül, il n'a pas mis la priorité sur la présence de Dieu. Il a oublié, laissé cette arche de l'Alliance, mais David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, que l'on peut voir dans les psaumes, entre autres, où un des versets préférés qui s'écrie à Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » Et pourtant David, c'est un crapaud, hein. Pour pas utiliser un autre mot, il a piqué la femme de son général, il l'a même tué, il l'a envoyé au combat en cas d'adultère, un meurtrier. Et pourtant, on voit dans les Hébreux que Dieu dit que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait son cœur, il veillait à son cœur. Mais une des clés, un des ingrédients essentiels de son cœur, c'était de rechercher cette présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il dit... il faut que je ramène cette arche qui, au fait, était dans la maison du frère aîné de David. Abinadab, c'était le fils aîné d'Ésaïe, donc le frère aîné de David. Et là, comme ils ont oublié comment ça se faisait, quelles sont les conditions pour porter l'arche, parce qu'il y a des prescriptions, eh bien, ils vont le prendre, mettre sur un char, ils font quand même un peu bien, ils font qu'il est neuf, mais ce n'était pas les prescriptions que Dieu avait demandées, puisque l'arche devait être portée par les Lévites, portée par les sacrificateurs. Et là, Uzza, rempli de présomption, il veut relever cette arche qui est en train de tomber par terre, et la crainte de Dieu les saisit en frappant Uzza de mort. Et ceci, évidemment, sous le cadre de l'ancienne loi, la loi et pas la grâce, mais ceci démontre qu'avec la présence de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Je n'ai pas le temps de dénoter, de vous prouver pourquoi il a été frappé de mort, mais il y a des raisons, et entre autres son cœur qui était présomptueux, que plutôt, et c'est ça qui est très étonnant, que Obed-Edom, qui lui, alors que l'âge est tombé, il est dans cette région, à quelques kilomètres ou quelques lieues de Jérusalem, Obed-Edom, qui est un sacrificateur du dieu Edom, décide d'accueillir cette arche dans sa maison. Et là, on voit quelque chose de fantastique, et c'est le thème de mon message, c'est on voit que Dieu bénit Obed-Edom d'une façon extraordinaire. La présence de Dieu qui est accueillie avec un bon cœur, la présence de Dieu qui est accueillie, quels que soient nos défis, même en étant un Philistin qui adore un faux Dieu, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, qui fait que la Bible dit, il est béni pendant 3 mois. Sa santé est bénie, ses troupeaux se multiplient, il est béni financièrement. Il a une bénédiction qui découle d'un seul endroit, qui est la présence de Dieu. Et c'est là que David entend dit ceci, étant dans la crainte, un peu énervé contre Dieu, mais aussi ayant étudié, certains textes le disent, entre autres dans les chroniques on le voit, pendant 3 mois, David a étudié comment il pouvait ramener cette présence de Dieu au milieu de son peuple. Et au bout de 3 mois, il décide de reprendre l'arche à Obed-Edom pour pouvoir le ramener à Jérusalem. Et c'est là qu'ils font les rites nécessaires et il amène ceci avec beaucoup de joie au milieu d'Israël. Ce matin, je suis venu ici pour nous encourager. Qui que ce soit, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'entreprise, en tant qu'église, en tant que groupe de louanges, groupe de jeûnes, groupe de prières, c'est de tout faire pour ramener l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance au milieu de nous. Et c'est ce que Dieu veut faire. On est dans une saison. Pourquoi pendant des années, on n'a jamais tant parlé de la présence de Dieu? Et vous dites, certains disent, vous êtes tout le temps en train de parler de la présence de Dieu. Nicolas, il se monte sur l'estrade, il parle de la présence de Dieu, la louange parle de la présence de Dieu. Et bien, tout simplement parce qu'on est dans une saison où Dieu veut ramener l'arche du témoignage au milieu de nous, comme dans l'ancien temps, où sa lumière éclate, brille hors de nous, hors de nos vies, hors de cette église, entourée des anges. Ce matin, quand il a été dit, c'était une des choses que j'aurais voulu développer, c'est que là où il y a la présence, il y avait ces chérubins. Je sens les anges de Dieu dans cet endroit, les amis. Cette maison n'est pas simplement une maison traditionnelle, une église traditionnelle, mais la main de Dieu est au milieu de nous. Et si nous mettons la priorité, nous allons rechercher, pas la laisser pour les autres, mais chacun en tant qu'individu, à rechercher cette arche de l'Alliance, rechercher ce témoignage, eh bien quelque chose va se passer. J'aimerais lire avec vous, parce que, ben voilà, et je laisserai la parole parler, et c'est le Saint-Esprit qui enseignera. Comment est-ce qu'on peut vivre ceci? Eh bien, c'est tout simple. Hébreux 9 nous le montre. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. J'aimerais demander au groupe de louanges de me rejoindre. Je ne sais pas si les minutes qui me restent, c'est avec le groupe de louanges ou sans le groupe de louanges. Et en plus, moi, j'ai la bénichon. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je dois prêcher, ça tombe sur la bénichon. Pourtant, on l'a déplacée. Ce n'est pas la bénichon de la glande, c'est la bénichon d'Atalance. Mais priez que je ne fasse pas une indigestion. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étant le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Je fais la parenthèse, parce que c'était une partie de mon enseignement. Dans notre vie, nous devons avoir ce vase qui récolte la manne. La manne, c'est la révélation quotidienne du pain quotidien. Dieu désire nous donner du pain quotidien, pas juste lire la Bible comme des vieux récits, mais où chaque jour, il nous donne du pain quotidien. Et cette verge qui représente l'autorité, il la donne à chacun et il nous encourage à chacun de prendre hors de sa présence. C'est dans la présence, pas en voulant prendre une place ou en cherchant un titre, mais hors de sa présence, il y a cette autorité que Dieu veut donner à chacun pour accomplir sa mission. Et ouvrir les mers rouges, taper sur le rocher le plus dur pour nourrir, abreuver le peuple. Et au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Je sens ceci. On vit dans une saison où les anges vont se manifester plus que jamais. Et ils sont là aujourd'hui. Ils sont là, glorifiant Dieu, élevant Dieu. Et comme Jésus qui est au milieu de nous, dans l'évangile selon saint Luc, il a dit, les anges de Dieu montent et descendent. Et ceci veut se passer sur chacun individuellement. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre propitiatoire. Ce n'était pas le moment de parler, ce n'est pas le moment, pardon, de parler en détail là-dessus. C'est ce que la Bible dit, hein, pas moi. Verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec des aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des bienvenirs. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, mais il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec des sangs de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandit sur eux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, verset 24, en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour chacun ici dans cette salle et ceux qui nous regardent devant la face de Dieu. Et j'aimerais lire encore avec vous quelques versets dans Hébreux 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aujourd'hui. Car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans vos cœurs et je les écrirai dans leur esprit et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Chers amis, la venue de Christ, qui est mort, ce n'est pas juste mort pour nos péchés, mais il est venu pour pouvoir réaliser la loi, réaliser ce qui se vivait du temps de cette arche du témoignage. Aujourd'hui, l'arche n'existe plus physiquement, mais Jésus, une fois pour toutes, il a été sur cette croix. Il est mort pour nos péchés, nos maladies, mais aussi pour que nous puissions, jour après jour, nous tenir vers ce propitiatoire, vers cette arche de l'Alliance, cette arche du témoignage qui se trouve en nous. Comment l'arche de témoignage peut se trouver en nous? Ben parce que l'Esprit de vérité, l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, nous 17, nous dit « Vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Verset 20, « Et vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Verset Romains 8, 16, et je terminerai par ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette arche du témoignage, pour ceux qui acceptent le Christ dans leur vie, l'Esprit de Dieu réside au-dedans de vous. Et c'est au-dedans de vous que cet Esprit rend témoignage pour que votre propre vie puisse devenir une arche du témoignage. Une arche du témoignage où vous entendez la voix de Dieu, même audiblement, mais vous l'entendez résonner par son esprit. C'est pour ceci que nous ne pouvons pas vivre la présence de Dieu sans ce merveilleux Saint-Esprit. C'est lui qui, au-dedans de nous, donne ce témoignage intérieur qui permet au Saint-Esprit de témoigner à notre esprit, à notre cœur et à notre conscience. Et c'est le témoignage de l'Esprit dans nos vies qui nous permet de connaître son approbation ou désapprobation manifestée par la présence de Dieu. J'aimerais développer ceci, parce que comment ça se fait que certains prennent la parole ou font des choses et il n'y a pas la présence de Dieu? Eh bien, la parole, elle nous le dit clairement. Je dis la vérité en Christ, Romains 9, verset 1. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est quand on permet à ce Saint-Esprit et qu'on lui donne une place prioritaire, qu'on le ramène dans notre vie pour qu'il puisse nous donner témoignage à notre conscience, à notre esprit, de cette présence glorieuse qui va amener la bénédiction dans votre vie. Vous voulez être bénis dans vos familles? Recherchez la présence de Dieu. Combien j'aime les vacances, mais ce n'est pas les vacances la clé. La clé pour avoir la paix dans votre famille, avoir la vraie amour, avoir des relations saines, c'est de ramener cette arche de l'alliance, l'arche du témoignage dans votre propre vie. Et ceci, ce n'est pas à travers des sacrifices de bœufs et d'autres, en se sacrifiant d'aller encore plus à la réunion de prière, en s'activant encore plus, combien même je vous encourage de vous engager, parce que ça amène une bénédiction. Mais c'est en recherchant chaque jour cette présence de Dieu. J'aimerais vous inviter à vous lever et vous encourager à dire ce que David disait au psaume 62, verset 8. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence, car Dieu est notre refuge. Seigneur, je te remercie que cette arche du témoignage, l'arche de l'alliance où ta présence était manifeste, visible à travers cette lumière qui émanait, et où on pouvait entendre ta voix d'une façon claire et même audible. Je te remercie que cette promesse est pour chacun ici dans ce lieu et ceux qui nous regardent par la télévision. Je te remercie, Seigneur, parce que toi, Seigneur Jésus, tu es venu comme le grand des sacrificateurs. Tu t'es donné sur la croix. Tu as accepté de verser ton sang pour nous purifier de tous les péchés, mais également nous donner une bonne conscience. Et c'est pour ceci que, alors que tu es monté au ciel, tu as dit « Il faut que je parte » afin que l'Esprit de vérité, celui qui rend témoignage du Christ, celui qui permet d'avoir et de bénéficier de cette présence, puisse habiter en vous. Pas juste avec vous, beaucoup parmi nous ont une conscience intellectuelle de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, la relation externe, ce n'est pas l'endroit où l'on trouve la présence. C'est une relation interne de proximité avec Dieu et entre autres avec ce Saint-Esprit qui nous permet de nous connecter, de connaître et d'aimer toujours plus Jésus et Dieu notre Père. J'aimerais vous encourager, comme je l'ai vu, comme on l'a lu dans les premiers versets, plusieurs ont peur du Saint-Esprit. Plusieurs sont pris par des esprits de religiosité. On a été mis à résister à l'Esprit de Dieu. Le Seigneur dit, rendez vos cœurs sensibles. C'est la parole qui le dit. Rendez vos cœurs sensibles à cette présence. Et j'aimerais encourager chacun qui dit oui, Seigneur, je veux mettre la priorité et de ramener maintenant cette arche de l'Alliance dans ma vie, que ça puisse être le centre de ma vie. Si c'est votre cas, j'aimerais vous inviter à lever vos mains comme un signe d'abandon, de fermer vos yeux et de dire, Seigneur, enseigne-moi comment ramener l'arche du témoignage dans ma vie. Comment ramener la présence dans ma famille, dans mon entreprise, dans mes activités. Et ce n'est pas juste la louange ou la prédication qui amène la présence de Dieu, mais le ministère parmi les enfants empreint de la présence de Dieu est glorieux. La présence de Dieu manifestée lorsque l'on fait les nettoyages ou le parking, c'est glorieux et la lumière peut jaillir hors de nous. Et c'est hors de cette présence qu'il y a le fruit de l'Esprit qui jaillit, qui nous transforme à l'image du Christ. Et pas seulement le fruit de l'Esprit que nous avons besoin, mais également des dons spirituels qui sont les dons qui glorifient le Seigneur. C'est pour ceci, levons nos mains et accueillons cette présence ce matin. Nous te disons, Seigneur, nous ramenons cette arche du témoignage dans nos vies, mais aussi dans cette église. Dans le groupe de louanges, les différents groupes de louanges, dans les rencontres de prière, dans le bureau, dans nos relations, les groupes de maison, dans chaque maison, que ta prière, ton onction, ta présence, l'arche du témoignage puisse venir. C'est pour ceci que nous te disons bienvenue, Seigneur. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Viens dans nos entreprises. Dans les business qui sont représentés, dans nos communes. Que ceux qui ont un appel dans la politique puissent ramener l'arche de la présence dans nos gouvernements, à Lausanne, à Fribourg, dans les municipalités. Permets-nous de voir ta gloire et nous accueillons le ministère des anges et cette présence glorieuse de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est ici. Je ne peux pas terminer sans faire cet appel. Si vous êtes là ce matin, comme vous n'avez jamais accepté Christ dans votre vie, c'est le meilleur moment de pouvoir lui dire « Oui, je crois que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité. » Si ce matin tu es là, que tu n'as jamais accepté le Christ dans ta vie, ou peut-être tu l'as abandonné et tu es faim et soif de cette présence, mais tu vis dans le péché, j'ai une bonne nouvelle, c'est que tu peux te repentir de tes péchés. Plusieurs vivent dans le péché. C'était un des messages que j'hésitais d'apporter ce matin. Mais vous savez, avec la tendance du légalisme des fois, on pourrait apporter ce genre de message à la sainteté du légalisme, qui est à l'opposé de ce que l'Esprit de Dieu fait. Je sentais que je n'étais pas prêt. Je sentais que c'était la voix. Et ce matin, je sens que Dieu met son tampon par sa présence manifeste. Mais une chose est sûre, c'est que le péché nous sépare de la présence de Dieu. On ne peut pas jouer avec la présence de Dieu. Vous voulez une vraie manifestation de la présence de Dieu, pas juste avec des frissons, mais une présence en vous. Ce n'est qu'en abandonnant vos péchés. J'aimerais demander à chacun de fermer les yeux. Et si vous êtes là ce matin et que vous vivez dans le péché et que vous voulez vous repentir, ou que vous êtes là simplement parce que vous n'avez jamais accepté le Christ et que aussi vous voulez vous repentir de vos péchés et dire « Oui Jésus, j'ai besoin que tu deviennes le centre de ma vie. Je veux invoquer ton nom ce matin afin que ta présence puisse m'envahir par ton merveilleux Saint-Esprit. » Si ce matin vous êtes dans ce cas-là, vous dites « Je veux me repentir de mes péchés, je veux donner ma vie à Jésus, je veux que Jésus soit le centre de ma vie. » J'aimerais vous inviter à lever bien haut votre main pour que je puisse prier pour vous. Y a-t-il des personnes ici qui disent « Oui, je ne veux pas quitter, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus, je veux me repentir. » Si c'est votre cas, levez juste bien haut pour que je puisse voir et ensuite on terminera avec une simple prière. Y a-t-il quelqu'un qui dit « Je ne veux pas quitter cet endroit ?» Je ne sais pas si, oui, une personne ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit « Je ne veux pas quitter cet endroit ?» Une autre personne sur le balcon, un jeune homme. Amen. La présence de Dieu va venir sur ta vie, jeune garçon, en acceptant le Christ dans ta vie. La gloire de Dieu va se manifester pendant la nuit. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Y a-t-il d'autres personnes qui disent « Je veux donner ma vie au Christ. Je veux me repentir de mes péchés. » Si c'est votre cas, vous pouvez lever encore bien haut votre main. Oui, je vois votre main ici. Je vois votre main sur le balcon. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Si ce n'est pas le cas, faisons simplement une prière simple, mais empreinte de sa présence. Disons tous ensemble, « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je te donne ma vie. Deviens le Seigneur de ma vie, depuis maintenant et pour toujours. » J'accueille ta présence dans ma vie. Maintenant. 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 Si vous avez fait cette démarche, venez trouver un responsable qui puisse vous aider, prier personnellement pour vous aider à grandir avec lui. Tous les jours, je vous bénis. Je bénis votre vie. Je bénis votre famille. Et que cette présence soit toujours notre priorité. Que cette œuvre apostolique puisse être connu, pas parce qu'on a des bons prédicateurs ou des bonnes choses, quand bien même on aspire à ceci, mais parce qu'il y a sa présence au milieu de nous. Soyez bénis.